priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des brevets sur le prix des médicaments et des moyens pour faciliter l'accès aux génériques dans les pays du Sud. On en parle avec le docteur Jean-Hervé Bradol, qui est directeur d'études à la Fondation MSF, Médecins Sans Frontières, et Céline Grillon, qui est coordinatrice plaidoyer internationale à ACT UP Paris. Juste avant les informations, on était en ligne avec Othman Mellouk du Maroc qui travaille sur les questions d'accès aux médicaments. Othman Mellouk, vous êtes toujours en ligne avec nous. Juste avant les informations, vous étiez en train de nous parler de ces discussions sur les accords de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne et vous étiez en train de dénoncer les pressions que mène l'Union européenne. Expliquez-nous.
Oui, alors déjà ce qu'il faut savoir sur ce genre de négociation, c'est que ça se passe dans l'opacité totale, c'est-à-dire il n'y a aucune transparence, ni du côté marocain, ni du côté européen, et ce n'est pas normal au moment où on parle de plus de démocratie dans les pays du Sud, que les parlements des pays, que les partis politiques, que la société civile ne soient pas au courant de ce qui se trame en catimini entre les négociateurs marocains et européens. Ce sont souvent des négociations où la force n'est pas la même, c'est-à-dire c'est très difficile de voir un pays comme le Maroc être en position de force d'exiger quoi que ce soit de l'Union européenne avec le lobby de l'industrie pharmaceutique qui est derrière et qui est très fort.
Et j'imagine, attendez, je vous interromps deux secondes, que vous aussi, étant plutôt dans le monde associatif, vous avez quand même moins de moyens de lobbying que l'industrie pharmaceutique.
Ah ben, on en a beaucoup moins, pour ne pas dire qu'on n'en a pas du tout. Il y a aussi les pays en voie de développement qui négocient un petit peu à l'aveugle. Aucune étude d'impact n'a été réalisée au Maroc pour savoir quel serait l'impact sur la santé. Il y a une étude qui a été préparée du côté européen, mais bizarrement, elle n'aborde pas du tout la santé, parce que s'il l'avait fait, on connaîtrait les résultats. Donc pour nous, notre position, c'est que d'abord, il ne faut plus qu'il y ait ce genre de négociation dans l'opacité, et il faut qu'il y ait une transparence. Il ne faut en aucun cas qu'il y ait des clauses ad pic plus ou qu'on renonce aux flexibilités de l'accord ad pic qui ont été quand même réaffirmées dans la déclaration de Doha que le Maroc et l'Union européenne ont signé. Donc en ayant ce genre de type d'accord, le Maroc et l'Union européenne renoncent à leur engagement qu'ils ont fait devant la communauté internationale à Doha. Ce qu'il faut, alors si je peux me permettre, c'est bizarre de voir que dans les négociations d'accords de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, l'Europe renonce un petit peu à aborder la question de propriété intellectuelle parce que ce n'est pas dans son intérêt de le faire avec les États-Unis et de voir l'Union européenne imposer un pays pauvre comme le Maroc de telles restrictions, sachant que ça aura systématiquement un impact sur l'accès aux médicaments pour les populations les plus pauvres et pour le pays qui est en train enfin de mettre en place un système de sécurité sociale petit à petit. Et tous les observateurs disent que ça ne marchera pas avec ce type d'accord.
Restez en ligne avec nous, hein, Othman Mellouk. On a aussi au téléphone le docteur German Velasquez, qui est conseiller spécial santé et développement à Centre Sud à Genève. Docteur German Velasquez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous parce que vous êtes en ce moment en Colombie et que donc il est très très tôt pour vous. On vient de parler des pressions menées par l'Union européenne sur le Maroc. Vous, là, justement, au Centre Sud à Genève, vous dénoncez en ce moment les pressions menées par les États-Unis en Inde?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai bien entendu l'intervention de Othman Mellouk, que je connais très bien et je partage totalement son avis. Mais je me retrouve aujourd'hui à Bogota pour un séminaire international sur l'accès aux médicaments. Et là, je vois qu'il y a des problèmes même plus graves. Les négociations commerciales représentent un problème grave pour les pays du tiers-monde. Mais à mon avis, malheureusement, je ne vais pas être pessimiste, mais il n'y a pas de négociation commerciale. Il y a des impositions où il y a des clauses dans le domaine de la propriété intellectuelle qui vont avoir des conséquences graves dans le domaine de la santé et particulièrement dans le domaine de l'accès aux médicaments. Ce qui va se traiter aujourd'hui et demain et après-demain ici en Amérique latine, c'est plutôt une autre logique, essayer de casser les modèles de consommation pharmaceutique. On essaye d'imposer aujourd'hui aux pays émergents la même consommation qui existe aujourd'hui dans les pays développés. Pour vous donner une idée, tout simplement, les États-Unis consomment aujourd'hui de l'ordre de 900 dollars par personne par année, l'Union européenne de l'ordre de 600 dollars ou 600 euros par personne par année, tandis que l'Inde ou la Chine, la consommation est de l'ordre de 30 dollars. Donc, quel est le message? Est-ce que pour que la Chine ou l'Inde se développe vraiment dans les domaines sanitaires, il faudra qu'ils consomment demain, d'ici 5 ans ou 10 ans, 900 dollars comme les États-Unis? La réponse est claire, la réponse est non. Il faut absolument casser ce modèle de consommation. Il y a récemment une publication très importante en France de deux pharmacologues français qui disent que des 4000 médicaments qui sont en circulation en France aujourd'hui, il y a 2000 qui sont totalement inutiles du point de vue de santé publique. Donc, à mon avis, il y a une source énorme, c'est de renverser ce modèle, de casser le modèle de consommation qui va impliquer évidemment de casser aussi le modèle de recherche et développement des produits pharmaceutiques et casser le modèle de remboursement des systèmes de santé, d'arrêter de rembourser des médicaments qui sont inutiles et même dangereux.
Ça, c'est sur la question de la consommation de médicaments, et on imagine bien effectivement que l'industrie pharmaceutique pousse là-dessus à la consommation. Mais l'autre question, c'est le prix des médicaments essentiels. On a parlé tout à l'heure dans la première partie de l'émission de ces nouveaux traitements contre l'hépatite C qui sont très efficaces, mais à un coût exorbitant pour les pays en développement. Le docteur Bradol nous a parlé aussi tout à l'heure d'un nouveau traitement contre la tuberculose multirésistante, aussi très prometteur, avec un coût absolument incroyable pour les populations et pour les pays.
Oui, tout à fait, mais vous savez, tout ça dépend que le niveau de conscience et d'action des pouvoirs publics. Si vous, sans penser au pays du tiers monde, si vous regardez aujourd'hui, il y a des études récentes qui montrent que les prix des médicaments, les mêmes médicaments en France par rapport à l'Italie, la France, elle paye trois fois plus les mêmes médicaments, des mêmes laboratoires, les mêmes dosages, trois fois de plus. Pourquoi? Parce que, tout simplement, apparemment, l'Italie achète les médicaments par appel d'offres internationales, il y a un système beaucoup plus transparent, et la France, avec un système qui n'est pas transparent du tout, fait l'achat de médicaments pour la sécurité sociale d'une façon avec une espèce de négociation où l'industrie, elle est mêlée partout dans les instances qui prennent les décisions au gouvernement. Et je ne parle pas de ce gouvernement, les gouvernements antérieurs avec d'autres tendances, des gouvernements de gauche ou de droite, ça a été pareil. Les cas que vous connaissez bien, il y a eu beaucoup de littérature en France des médiateurs. Les médiateurs ont été pendant des années dans les marchés, sachant que c'était
totalement inutile.
Un produit que tuait des personnes.
Mais qui en plus tuait.
Inutile, dangereux, et qu'il fallait retirer du marché.
Mais du coup, Germaine Velasquez, on fait quoi maintenant? On fait comment?
D'abord, je crois qu'il y a une question qui se pose très, très, très ouvertement de plus en plus au niveau public, au gouvernement français, par exemple. Si c'est vrai qu'il y a les 50% des médicaments qui sont inutiles, est-ce que le gouvernement français va continuer à rembourser les médicaments inutiles? Il y a les auteurs des livres que je viens de mentionner qui disent que le déficit actuel de la sécurité sociale en France est de l'ordre de 15 000 millions d'euros. Et ça, c'est l'estimation des coûts des médicaments inutiles qui sont en circulation, qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, il faut.
Ça, c'est pour la France. Mais pour les pays en développement, pour qu'ils aient accès aux nouveaux traitements qui sont si chers, on fait comment?
Il faut, comme je vous disais, il faut renverser la tendance. Il faut pas. Il y a probablement beaucoup de médicaments qu'on essaye, et l'industrie pharmaceutique internationale essaye, les gouvernements des pays tiers-monde, qu'ils remboursent les médicaments, que probablement sont pas, il n'y a pas une nécessité de les introduire ici. Il y a un cas très très récent qui touche à la propriété intellectuelle en Équateur, les pays voisins ici. Il y a le Bureau national de la propriété intellectuelle a décidé de faire une licence obligatoire, de retirer les brevets pour permettre la fabrication de génériques d'un médicament où le ministère de la Santé de l'Équateur vient de dire ça ne nous intéresse pas du tout, c'est pas un médicament nécessaire, donc s'il est cher dans les commerces où tout le monde doit le payer de sa poche, tant mieux, Et ça veut dire qu'il y aura moins consommation. Donc, vous voyez, les problèmes de la propriété intellectuelle, c'est un problème grave, extrêmement grave, quand on parle de produits nécessaires et essentiels, comme les antirétroviraux, mais quand on parle d'un produit contre les cancers qui va prolonger 2 ou 3 mois la vie d'un patient et que les produits coûtent 100 000 dollars par année par personne, là c'est une question, un problème artificiel que probablement il faut éviter dans les pays tiers monde et trouver une autre logique de consommation.
Et là c'est la responsabilité des États, une réaction, docteur Jean-Hervé Bradol, et puis après Céline Grignan.
Je pense que c'est important de souligner que l'industrie pharmaceutique, elle est assez peu innovante. Et comme le dit Herman, il y a beaucoup de médicaments qui servent à rien, qui sont dangereux. Effectivement, le Mediator, c'est un bon exemple de ça. Mais si on regarde globalement, sur 850 nouvelles indications thérapeutiques qui sont sorties entre 2000 et 2011, pour une douzaine d'années, il n'y en a que 4% qui ont été inscrites sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Donc vous voyez la masse d'inutilité. Les autres sont beaucoup des copies de médicaments déjà existants pour que le labo en question puisse avoir sa part de marché sur un créneau spécifique de gastro-entérologie ou de cardiologie, mais absolument pas des innovations. Donc de ce point de vue-là, il y a un essoufflement très important du point de vue innovation.
C'est une Grillon.
Oui, deux mots sur les accords de libre-échange. Comme disait Othman, il y a un vrai problème de transparence. En fait, on nous parle d'accords de libre-échange qui touchent uniquement au commerce. En vérité, à partir du moment où il y a des dispositions sur la propriété intellectuelle et qui renforcent les brevets, ça a des implications fortes sur la santé publique, sur l'accès aux médicaments génériques. Et ce qui est vraiment scandaleux, je pense, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis, l'Union européenne, au lieu d'aller négocier ou proposer des choses au sein de l'OMC ou des pays émergents comme l'Inde et le Brésil qui ont des modèles différents pour considérer les brevets sur les médicaments, ils vont aller négocier en bilatéral avec des pays en développement qui n'ont pas du tout le même poids politique. Donc ça crée des négociations complètement inégales. Et finalement, la santé publique, c'est devenu une espèce de variable d'échange, et les pays en développement n'hésitent malheureusement pas à sacrifier la santé des personnes de leur population les plus pauvres pour avoir des accès facilités au marché du Nord.
Et Germain Velasquez d'ailleurs disait c'est pas des négociations, finalement c'est plutôt une imposition. Je voudrais vous faire réagir juste au nom de Melouk par rapport à ce que vous nous disiez. Vous nous avez bien expliqué au départ que finalement les États-Unis ont mené des accords de libre-échange avec le Maroc et que vu le contenu de ces accords, finalement le Maroc va être obligé d'accorder les mêmes choses à l'Union européenne, c'est bien ça?
Bah, pour l'instant, la position de l'Union européenne a été claire. Quand il y a un mois, il y avait le dernier round de négociations, la société civile a rencontré certains négociateurs européens et ils disent qu'il est hors de question d'obtenir moins que ce que les États-Unis ont obtenu. Donc ça veut dire au minimum, c'est ce que les États-Unis ont obtenu. Sinon, l'Union européenne préfère avoir des règles encore plus strictes. Et au fait, c'est tout simplement en signant, si vous voyez le nombre de pays aujourd'hui en développement qui sont en train de négocier des accords de libre-échange, il y a quasiment tous les pays du monde sont en train de négocier ce genre d'accord. Au fait, les accords de libre-échange sont un moyen utilisé par les pays riches pour changer complètement la loi internationale qui est inscrite dans l'OMC, et une fois que tout le monde aura signé des accords de libre-échange, on va se retrouver avec un standard mondial qui va beaucoup plus...
Il n'y aura plus de déclaration de Doha, en clair.
Exactement. Il n'y aura même plus d'accord ad hoc parce qu'il y aura un accord ad hoc plus généralisé. Si je peux juste dire un mot sur la question des prix, nous sommes en train d'arriver dans un système complètement fou. Si on regarde le dernier traitement sur l'hépatite C qui coûte 140 000 dollars par cure, alors on a une nouvelle tendance de l'industrie pharmaceutique qui jusque-là nous disait les médicaments coûtent cher parce que la recherche et développement coûte cher. Avec ce nouveau traitement, Gilead nous dit, et en fait, il ne faut pas voir le prix du médicament, il faut voir qu'est-ce que ça coûterait au pays de ne pas traiter. Et ils incluent dedans les frais de traitement de cirrhose de foie, les frais de traitement de décès, les frais de greffe du foie. Et donc, on arrive à un autre abus. En gros, pour éviter tout ça, on nous fait quand même payer les frais de tout ça. Et donc, c'est ce qui justifie pour Gilead aujourd'hui ce prix de 140 000 $, qui est juste complètement fou. Parce que on a fait le calcul, si on veut traiter tous les gens qui ont l'hépatite C en France, sur cette molécule seule, il faudrait le double du budget des hôpitaux de Paris. Ce qui est même pour la France, c'est juste pas possible.
Et on imagine bien que pour le Maroc, c'est compliqué. Vous vouliez réagir, Hervé?
Surtout, ce ne sont pas des accords de libre-échange. Il y a un dévoiement total du terme, puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces mécanismes de négociation et de contrat entre États, c'était pas fait pour organiser des monopoles et des pénuries. Ce qu'on appelle des accords de libre-échange, en réalité, c'est pas des accords de libre-échange.
C'est pour que la marchandise circule.
C'est le contraire. Voilà. C'est pour faire circuler la marchandise, arrêter le protectionnisme, relancer l'économie mondiale. Ça avait pas du tout pour but de créer des rentes pour certains intérêts particuliers. À coup de monopole, et derrière ces monopoles, à coup de pénurie pour les patients dans le domaine de la santé.
C'est une grille. Je voudrais qu'on reparle de la situation en Afrique du Sud, parce que vous, je dis vous, mais plusieurs, et MSF aussi, entre autres, a interpellé sur, finalement, la découverte de documents de l'industrie pharmaceutique sur la pression et les moyens financiers qu'elle consacre pour faire changer, finalement, la loi en Afrique du Sud sur la protection des brevets. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. En fait, En janvier, on a dans la presse, il y a eu une fuite d'un document, un plan de présentation d'un projet d'une entreprise de lobby américaine qui s'appelle Public Affairs Engagement. Je me souviens plus exactement.
Oui,
le
c'est
nom.
Ça. Jean-Yves Bradol est en train de me le tendre, c'est ça. Voilà. Et ça s'appelle le Proposal Prepared for Pharma IPASA.
Voilà. Donc il y a une dizaine de pages qui détaillent. Comment cette société de lobby américaine, dirigée par un ancien ambassadeur américain, propose d'engager une campagne de lobby à travers l'écriture de tribunes, la rencontre de décideurs politiques, de médias, etc., pour décrédibiliser le projet de réforme de la loi sur les brevets en Afrique du Sud, donc qui vise à implanter en Afrique du Sud l'ensemble des flexibilités de l'accord ADPIC. Et en fait, cette étude a été commandée par Pharma et IPASA, qui sont respectivement l'équivalent du LEM, hein, les syndicats des entreprises du médicament,
qui recoupent l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et alors, d'ailleurs, MSF, vous êtes cité dans ce rapport.
Ouais,
comme étant ceux qu'il faut...
On est cités comme des ennemis.
mais donc concrètement, je voudrais aussi vous faire réagir là-dessus, Germaine Velasquez, vous qui êtes en Colombie. Comment finalement des activistes comme vous, comme MSF, comme ACT UP, peuvent contrer finalement cette pression de l'industrie pharmaceutique?
Tout d'abord, déjà, les ONG comme MSF et d'autres les font très bien essayer d'intervenir dans les organismes internationaux à Genève, à l'Assemblée mondiale de la santé, au Conseil exécutif de la OMS, où il y a toutes ces choses qui sont en train de discuter, qui ont été discutées au mois de janvier, qui vont être discutées au mois de mai cette année, essayer d'intervenir aussi dans les débats qui se passe à la Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à l'Organisation mondiale du commerce. Mais je voudrais revenir sur la dernière intervention de Thomas Melluc, parce qu'il y a un point qui est extrêmement important et les gens ne sont pas conscients toujours. Et c'est qu'on accepte l'industrie pharmaceutique, et c'est la seule industrie dans le monde aujourd'hui où on accepte que les prix de production et de recherche et d'innovation n'ont rien à voir, les coûts de l'innovation n'ont rien à voir avec le prix final du produit. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Imaginez-vous si demain l'industrie de l'automobile essaye de nous vendre un auto en calculant quelle était l'économie que vous avez fait de faire Paris-Genève en voiture au lieu de l'avoir fait à pied ou en cheval. Donc, on met des variables, des coûts d'un produit qui sont absolument surréalistes et que je vois pas à quel titre les pouvoirs publics acceptent aujourd'hui ce type de calcul des coûts de l'innovation. Les coûts de l'innovation aujourd'hui sont faux et c'est ça qu'il faut absolument corriger. ou que les prix des médicaments à la fin ne doivent pas lier à un coût qui est artificiellement gonflé tous les années d'une façon totalement qui n'est pas en rapport avec la réalité des choses.
Et surtout, docteur Bradol, en fait, toute une partie de la recherche fondamentale, est menée par le public,
absolument
pas par le privé.
Absolument. Et on connaît mieux maintenant les coûts d'innovation, hein, parce que bon, ça fait 20 ans que l'industrie nous dit ça coûte 1 milliard, voire plus, de mettre sur le marché un nouveau traitement. En réalité, il y a eu des études menées par le secteur public américain qui montaient que c'était plutôt 100, 200 millions de dollars et absolument pas 1 milliard. Et nous-mêmes, à travers une fondation de droit suisse, DNDI, associée avec la recherche publique brésilienne, indienne, l'Institut Pasteur, on a développé des nouvelles indications thérapeutiques, assez faciles à faire parce que c'était à partir de médicaments qui étaient déjà sur le marché, qu'on réintroduisait et qu'on réétudiait pour de nouvelles indications. Eh bien, on a fait enregistrer 6 nouveaux traitements ces dernières années, et le coût moyen de traitement, ça nous a coûté 22 millions par nouvelle indication thérapeutique. Donc,
alors, évidemment, et ce sont des médicaments qui sont sortis sans brevet, d'ailleurs.
On les a pas brevetés. On a pas breveté.
Et alors, du coup, je voudrais qu'on en vienne maintenant à la solution. On fait quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que ce que vous demandez aux ONG et activistes, c'est la suppression du brevet? Vous demandez quoi exactement aujourd'hui? On va commencer avec vous, docteur Bradol.
Bah, on ne demande pas la suppression des brevets en général, mais on demande qu'il y ait quand même un découplage, comme on dit dans notre jargon, entre le financement de l'innovation et les prix sur le marché, c'est-à-dire que on puisse rémunérer les produits de la recherche et autrement que en donnant des monopoles de commercialisation de produits. Parce que c'est pourquoi? C'est parce que c'est payé beaucoup trop cher pour le secteur public et les consommateurs le système actuel.
Vous demandez quoi, vous, Germaine Velasquez?
On demande quelque chose de très 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 simple. C'est une logique sanitaire et pas une logique commerciale. Il faut, quand on parle de la santé et de la vie des personnes, on parle des droits de l'homme, donc il faut absolument pas que les intérêts commerciaux et financiers prennent la priorité. Donc on demande une logique et une transparence et une logique qui soit basée sur des besoins sanitaires et pas de spéculation financière.
Et on comprend bien, particulièrement quand on parle de la tuberculose, qu'on est sur des questions finalement de santé publique.
Absolument.
Qui concerne tout le monde.
Absolument.
Céline Grillon, qu'est-ce que concrètement vous demandez?
Oui, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Hervé et ce qu'a dit Herman aussi. Bien sûr, quand on parle de médicaments, c'est complètement insensé qu'aujourd'hui le médicament c'est considéré comme un bien commercial comme les autres, avec les mêmes règles, avec le même attrait, enfin le même aspect industriel et profit. Juste un mot sur les brevets. Jean-Hervé a dit tout à fait que aujourd'hui, parce qu'en fait, souvent les personnes posent la question. Oui, mais si on supprime les brevets,
il y aura plus d'innovation. C'est ce que dit l'industrie pharmaceutique.
C'est le grand argument de l'industrie pharmaceutique. La vérité, c'est que sur les profits générés par l'industrie pharmaceutique, on ne sait pas combien est effectivement investi dans la recherche, on ne sait pas comment la recherche est menée. Le fait d'avoir plusieurs industries concurrentes, ça implique aussi qu'il n'y a pas de coordination entre les différents types de recherche menées, alors que tout ça, finalement, c'est quand même notre santé, c'est quand même notre vie qui est en jeu. Donc, premièrement, on ne sait pas combien est investi réellement dans l'innovation. On sait que c'est pas autant que ce que dit l'industrie pharmaceutique. Et le deuxième conséquence du système des brevets, c'est que finalement, aujourd'hui, la recherche par les laboratoires pharmaceutiques, elle est axée selon quoi? Selon le marché le plus solvable. C'est-à-dire, on va investir dans les médicaments qui vont le mieux se vendre. Du coup, en imposant les brevets en plus dans les pays du Sud, c'est-à-dire qu'on va faire payer les malades du Sud pour une recherche axée sur les besoins du Nord. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les maladies qu'on appelle maladies négligées, qui touchent
sur lesquelles il n'y a pas de recherche, justement.
Au Sud, voilà, il n'y a pas de recherche. Donc moi, je pense que de manière très urgente, il faut absolument pas qu'il y ait de brevets dans l'ensemble des pays du Sud. Ce sont même pas des marchés qui sont considérés... Enfin, c'est...
Donc des brevets dans le Nord, mais pas dans le Sud, c'est ça ce que vous êtes en train de dire?
Non, je pense qu'à terme, pas, il faut vraiment repenser le modèle. Non, pas de brevet.
Pas de brevet. Othmane Melouk, votre point de vue sur cette question?
Eh bien, nous, on travaille beaucoup plus, contrairement à MSF ou à South Center, on est vraiment, on essaie de parler à nos gouvernements. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a un certain nombre de pays en développement qui commencent à être conscients de cette question des brevets et notamment des flexibilités ADPI, qui commencent à être courageux et à les appliquer. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que les pressions des pays du Nord s'arrêtent sur ces questions d'accord ADPI plus ou sur les menaces qui sont proliférées par les ambassades américaines et de l'Union européenne. Dès qu'un pays essaie de prendre des mesures pour protéger la santé publique, tout ça doit cesser et nous, on pousse nos gouvernements à faire sauter les brevets quand les brevets posent un problème d'accès. Alors, pareil, comme rappelait M. Bradol tout à l'heure, il ne s'agit pas d'expropriation, il s'agit de recourir à un moyen qui est parfaitement légal, qui est les licences obligatoires, et les laboratoires qui ont découvert ces médicaments sont récompensés parce qu'ils reçoivent un pourcentage sur les ventes. Donc il faut absolument qu'aujourd'hui, tous les pays en voie de développement utilisent leurs droits, parce que c'est une question de droit, il n'est pas question de
c'est ça, et donc continue à appliquer finalement cette déclaration de Doha et les licences obligatoires. Merci beaucoup Othmane Melouk, je vous rappelle que vous étiez au Maroc. Merci Germaine Velasquez, vous étiez en ce moment en Colombie. Docteur Jean-Hervé Bradol et Céline Grillon, merci également d'être venus. Demain, on va parler de la cigarette électronique. Est-ce que c'est un bon moyen pour arrêter de fumer? Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions par téléphone au 33 1 84 22 75 deux fois, et bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. À demain.